Merci à tous ceux qui se joignent à nous. Nous allons parler de vol de véhicules automobiles. Vous savez, c'est une plaie au pays, en particulier au Québec. Mais j'ai des chiffres pour le Canada. Vous savez qu'on dit qu'une voiture est volée toutes les 7 minutes. Ça veut dire que pendant toute l'heure là, qu'on va se parler de ça, là, il va y en avoir quelques-uns qui ont intérêt à surveiller leur voiture. Imaginez, au moins 8 véhicules vont être volés. C'est à peu près ça. Là. Des vols de voitures qui coûtent chaque année, d'ailleurs, près $1 milliard, selon le Bureau d'assurance du Canada, donc aux assureurs. Et à vous aussi, parce que quand vous vous faites défoncer votre auto, souvent, ben, t'as un déductible. Qu'est-ce que tu veux? Des fois, c'est 500, des fois, c'est 1000. Ça te coûte toujours de l'argent, sans compter ce que tu te fais voler à l'intérieur. Et puis, bien sûr, ça a une tendance, c'est que ça fait souvent augmenter votre prime aussi pour l'année suivante. On pense que ça arrive qu'aux autres, puis moi, je peux vous le dire, ça m'est souvent arrivé, puis pourtant, tu prends des précautions. Il y a des gens, mon voisin immédiat la semaine dernière, tu sais, la maison d'à côté, s'est fait voler son auto. Il se couche le soir, le lendemain matin, plus de char. Tu dis, voyons. Et c'est connu, il y a des coins Verdun, centre-ville, bien sûr, c'est connu, centre-ville, c'est épouvantable. Mais de plus en plus, les gens vont, il y a Laval, Centre-Laval, là, ça a l'air que c'est connu pour ça, l'aéroport de Montréal, mais aussi des quartiers comme Rosemont qui commencent à avoir des problèmes. Alors, on va parler de ça, puis je vous avais demandé de me raconter vos histoires. Alors, il y a des gens qui m'ont écrit, je vais vous lire, et je vais vous redonner notre numéro de téléphone tout de suite, 514-790-9850. Sans frais, vous faites le 1-866-790-9850. Racontez-moi si ça vous est arrivé, dans quelle situation. On aime ça entendre les histoires des autres, ça nous fait du bien. On se dit, écoute, on n'est pas les seuls tatas à s'être fait défoncer la voiture. Avec nous, Benoît Charrette et Antoine Joubert, mes deux chroniqueurs automobiles préférés. Merci d'être là, messieurs.
Merci, bonjour. Isabelle.
Vous êtes fous, déjà fait voler la voiture, Benoît?
Non, mais je me suis fait défoncer deux fois. Puis bon, des véhicules de presse, parce qu'on roule le plus souvent avec des véhicules qui ne sont pas le nôtre. Une fois, c'était un oubli. En fait, j'avais échappé mon portefeuille dans l'auto. Je m'en suis rendu compte seulement quand j'étais rendu. Je dis, bon, il doit être dans l'auto, je vais le récupérer. Mais il y en a un autre que moi qui l'avait vu. Il a défoncé la voiture. Il avait essayé par la fenêtre de côté. Puis ça, visiblement, il n'avait pas réussi. Il était passé par le toit ouvrant. Il avait défoncé le toit ouvrant, puis il était rentré par en dedans.
Il voulait?
C'est là qu'il a découvert qu'un journaliste automobile, c'est pas si riche
non,
que ça.
Il devait être bien déçu. Je pense que j'avais 20 piastres dans mon portefeuille. Puis l'autre fois...
Non, mais ça écoeure, pareil.
Oh oui, ça écoeure. L'autre fois, c'était encore pire. Il n'y avait rien. J'avais laissé mon étui d'ordinateur. Parce que j'avais amené l'ordinateur avec moi. Je lui dis, oh, je vais laisser l'étui là. Lui devait, ben lui ou elle, là, parce que je ne l'ai jamais su, mais devait penser qu'il y avait un ordinateur dans l'étui.
Ouais.
Défoncer la fenêtre dans l'arrière pour se rendre compte qu'il n'y avait absolument rien.
Ça a coûté. Et moi, j'étais avec Antoine. Benoît Charrette au centre-ville, oui, il y a quelques années de ça. Et dîner d'affaires, on s'en va manger. Je laisse dans le coffre de la voiture un sac de travail avec mon ordinateur, mon équipement de caméra, truc ça. Mais c'est à l'abri des regards.
Dans
c'est
le coffre, le sac, ouais.
Je suis revenu, la vitre de côté était défoncée, la banquette était baissée, le sac était parti. Ah, alors ça, ça veut dire, puis je veux dire, j'ai su par la suite comment les gars s'y prenaient. D'abord, ne faites pas confiance à ceux qui gèrent des stationnements au centre-ville de Montréal. Moi, je suis persuadé qu'il y a de la connivence entre certains employés des stationnements en ville.
C'est pour ça que je n'ai jamais
les
clés.
Mais les gars se promènent avec des détecteurs de piles au lithium. Et savent ce qu'il y a dans votre voiture sans même regarder à l'intérieur, juste par un signal qu'ils vont avoir sur leur appareil.
Ils savent s'il y a un ordi ou pas.
Ils vont savoir si c'est un ordinateur, si c'est un GPS. Parce que si c'est un petit système de navigation à 100$, ils se donneront peut-être pas à peine. Mais si c'est un laptop ou de l'équipement qui vaut quand même qui a une certaine valeur, là, ils vont se donner à peine de défoncer. C'est sûr que c'est ça qui est arrivé dans mon cas. C'était impossible de savoir qu'il y avait ça dans l'auto, là.
Non,
c'est un coffre fermé, c'est une berline. Là.
Puis il y a un collègue à nous que je nommerai pas parce que j'en ai pas parlé, mais lui, s'était fait voler une voiture de presse dans un stationnement du centre-ville il y a plusieurs années. Il avait laissé sa clé. Puis probablement quelqu'un était de connivence. Il est revenu, il n'y avait pas d'auto, il n'y avait pas de clé. Le char avait disparu.
Ben voyons, mais il n'y a pas de recours contre le stationnement dans ce temps-là, il me semble.
Qu'on vous remet en anglais, il est indiqué qu'ils ne sont pas responsables des vols ou des débris. Fait que moi, c'est ce genre de stationnement-là, honnêtement, je bannis ça haut la main. J'ai aucunement confiance à ça.
Moi, je laisse pas de clé. Je laisse jamais de clé dans un stationnement. Si on me demande de laisser mes clés, je m'en vais à un autre stationnement.
Ouais, absolument.
On a Marie qui nous appelle. Hey, nos lignes sont en train de se remplir. J'ai même sur mon Messenger, ça arrête pas de rentrer sur mon Facebook. Marie, on commence avec vous. Votre témoignage là-dessus, ça vous est arrivé visiblement?
Oui, bonjour.
Bonjour.
OK, c'est Maryse.
Oh, Maryse, allez-y.
OK. Cet été, mon mari a un Buick Sierra de 2018. Puis les voleurs, ils ont essayé de le voler. Mais moi, je les ai entendus. Fait que je suis allée voir dans la fenêtre, puis je pensais que le gars il urinait sur l'auto parce qu'il avait les mains devant la portière. Mais non, il était en train de le voler.
Ah. Mais voyons donc!
Puis là, j'ai appelé le 911. Puis le pire, c'est qu'il était deux, mais moi, j'en voyais juste un. Mm-hmm. Puis il y en a un qui me surveillait, mais moi, je savais pas qu'il me voyait. Mais là, à un moment donné, je me suis rendu compte qu'il me voyait. J'ai affaire à mon 911. J'ai dit, là, c'est parce qu'il me regarde, puis je commence à avoir peur, là. Ça a pas pris.
Puis ça les a pas fait broncher que vous les regardiez. Non, je sais pas, moi, si quelqu'un me regardait dans la maison, je dirais, bon, OK, on m'a vu, on va s'en aller, là.
Non, il me regardait en pleine face, à part ça. Le 911 sont. Pas le 911, les patrouilleurs sont arrivés. J'avais 5 chars de police.
Là, mais il était parti, j'imagine, entre-temps. Il a dû.
Ben là, j'ai dit, il était plus là. Moi, je suis sortie sur ma galerie avec le policier. Il dit, mais madame, c'est vous qui avez appelé? Je dis, oui, il dit, il est où? Ben, je dis, il est peut-être caché dans un cèdre chez le voisin. Il était dans un cèdre.
Ah oui, est-ce qu'ils l'ont attrapé, le voleur?
Oui.
Ah oui.
Okay. Il y avait, puis là, la police, là, dernièrement, ils ont rappelé mon mari pour dire qu'il y avait un ordinateur dans les mains. C'est comme ça qu'ils déverrouillaient le camion. Qu'ils ont déverrouillé le camion.
Ah, c'est sûr. C'est maintenant, c'est ça la nouvelle.
Puis ils ont des petits bidules maintenant, depuis à peu près. Ça fait 4 ans là, que la police de Montréal a constaté des cas là, dans la région. C'est un espèce. Ça ressemble à un crayon et ça capte le signal de micro-ondes, le signal de votre clé. Ah, alors, ouais. On le capte, on l'enregistre, puis après ça, on repasse devant votre auto. Clic, clic, l'auto débarque.
Assez que les compagnies vont vous déconseiller, par exemple, à votre domicile, mm-hmm. d'avoir un crochet à clé à l'entrée de votre porte. Parce que quelqu'un pourrait se présenter à votre porte, même pas ouvrir la porte, capter le signal de la clé qui est juste l'autre bord du mur, arriver à côté du véhicule, rentrer dans le véhicule, puis s'en aller.
Arrête donc, fait qu'il faut pas mettre tes clés à l'entrée.
Ouais, moi, je suis pas bon là-dedans. Là. Mon setup est fait que toutes mes clés sont là. J'avertis tout le monde.
Ouais, c'est mais, ça. C'est quoi ton adresse, Antoine?
Non, mais moi, mes voitures sont vieilles, fait qu'il n'y a pas vraiment de code après ces clés-là.
Il y a quelques vintage de collection quand même.
Personne va partir avec son matador.
Non, c'est ça. Bonne chance si vous voulez détecter le code de la clé de mon AMC, hey, ça va être génial.
Notre sujet fait jaser. Je redonne notre numéro 514-790-9850. Puis tous ceux qui nous écoutent à l'extérieur de la grande région de Montréal, le monde de Laval, là, dites-nous si c'est vrai qu'à Laval, c'est un vrai problème.
Le Carrefour Laval, l'aéroport de Montréal, le 1030 est un endroit de prédilection pour voler des véhicules.
Aussi.
Toi, Isabelle, là, si tu veux te débarrasser de ton GL, c'est le meilleur endroit. Va stationner ça une couple de jours, bon, pas et pas.
Moi, c'est pas moi qui ai dit ça. 1-866-790-9850. On a bien sûr, et on a Jean Héroldi qui nous appelle, designer bien connu, qui, je pense que Jean est un petit peu fru. Bonjour, Jean.
Hey, ça va bien?
Ça va très bien, toi?
Je vous écoutais, moi, l'année passée, j'avais mon Jeep Wrangler, ça faisait 5 jours. Je me suis stationné 1 heure sur la rue Saint-Amboise à Montréal. J'ai ressorti mon Jeep, il était plus là. Et ce qui m'a frustré, c'est quand j'ai appelé les compagnies d'assurance, ils m'ont dit, ils ont dit, de toute façon, on n'attendra même pas le 30 jours pour le retrouver, parce que des Jeep Wrangler, ils doivent être déjà dans un conteneur.
Ouais, ça s'en va à l'exportation directe.
Ben oui, puis là, j'ai dit, mais pourquoi vous m'avez pas demandé de mettre un tag sur mon Jeep? Ils m'ont répondu, mais votre dossier était bon. J'ai dit, mais j'aurais aimé ça qu'il reste bon, mon dossier.
Ben oui, c'est ça.
Non, mais c'est vraiment frustrant. Écoute, juste...
75% des véhicules volés s'en vont dans un conteneur et ça s'en va à l'exportation.
Puis c'est le genre de véhicule...
Ils ont eu un beau parce qu'il était beau, mon Jeep.
C'est pour ça qu'ils l'ont volé, probablement, aussi.
Et donc, est-ce que c'est compliqué, parce qu'on va en parler après la pause avec une spécialiste, est-ce que ça a été compliqué pour toi d'avoir un nouveau véhicule?
Pas du tout, parce que étant donné que c'est un Jeep Wrangler, c'était comme déjà coché qu'on n'allait pas le retrouver, donc ça n'a pas été long, pas compliqué. Sauf que le prochain, ils m'ont dit, ben là, fais mettre un tag dessus, puis je l'aurais fait de toute façon.
Ouais.
Et naturellement, c'est ta prime d'assurance qui monte après ça.
C'est ça le problème.
Mais un tag, ça veut dire quoi, ça? C'est il faut
tag,
le
c'est
faire buriner?
Le retrouver.
Il faut faire buriner?
C'est un système de repérage par satellite.
Ouais. Ah, OK.
J'ai ça sur mon voiture, sur mon véhicule.
C'est bon à voir.
Oh oui, c'est bon à voir. En tout cas, à date, je fais toujours très attention.
Et, mais... est-ce qu'ils les repèrent, les voleurs de véhicules?
Il y a des trucs, hein. Il y a des trucs, parce que tag, ça vaut ce que ça vaut dans la mesure où c'est vrai que c'est efficace. Moi, j'avais déjà fait le test dans le passé avec le système, j'oublie le nom, là, mais ce qui précédait la technologie de tag. On est capable de repérer dans un rayon quand même assez simple un véhicule. Sauf que ce que les voleurs vont souvent faire, surtout quand c'est des véhicules qui sont sont propices à avoir des systèmes comme TAG, ben, ils vont voler le véhicule, ils vont le stationner à un endroit 2-3 jours. Si la police n'est pas allée le chercher, si TAG ne l'a pas repéré, ben là, ils savent que le véhicule n'a pas de TAG dessus. Après ça, ils sont capables de le prendre puis d'aller en disposer comme ils veulent.
Puis sinon, j'imagine qu'il doit y avoir un moyen de mettre une couverte de plomb ou quelque chose.
Ouais, ben, il y a ça, ou sinon, méthode. On va le mettre dans des stationnements souterrains. Moi, je me souviens d'une compagnie sur Côte-Vertu où on avait trouvé une quarantaine de véhicules volés dans un stationnement souterrain d'un building à appartement sur Côte-Vertu à Montréal. Mais parce que c'était du béton armé puis que le signal se rendait pas là, la compagnie, c'est pas TAG, j'essaie de... Boomerang avait réalisé dans le fond que le signal avait été perdu toujours à peu près au même endroit.
Ah, oui.
Et c'est comme ça qu'ils ont décidé de faire enquête puis de fouiller un peu plus pour finalement trouver une quarantaine de véhicules volés. Ouais.
Mais Jean, dis-moi, le système TAG, je pense que ça coûte quand même quelques sous, hein? C'est pas donné.
Je me rappelle pas, mais en même temps, ça fait baisser ta prime d'assurance.
Ouais. Ah ouais? Donc tu t'y retrouves un peu?
Oui. Ça m'avait coûté 359 pour vous donner l'idée, là.
360 $ à peu près?
360 $ à peu près. Puis c'est une fois, là. C'est pas, y a pas de...
Puis le burinage des pièces auto, ça marche,
en fait,
hein?
Souvent, la combinaison des deux fait que c'est plus efficace. C'est-à-dire que pour repérer un véhicule, un système TAG est intéressant. Sauf que si on le repère pas, il peut démanteler le véhicule parce que les pièces sont pas marquées. Alors, si vous marquez les pièces, puis vous avez un système de repérage, vous vous donnez une chance de plus. Okay. Ça fait beaucoup pour un même véhicule, là, mais si on y tient beaucoup... Parce que le marquage des pièces, pour ceux qui font de la recel, c'est très difficile de vendre des pièces qui sont burinées, c'est qui sont marquées.
Ouais. Jean, t'as-tu racheté un Jeep encore?
J'ai racheté la même affaire et c'est un auto que j'avais fait.
Tu sais, un gars apprend pas, là.
Donc, c'est exactement le même. Ce qui m'a fait le plus de peine, moi, c'est pas de faire voler mon auto, c'est de faire voler mon bac de déguisement d'Halloween, mais ça, c'est un autre sujet.
Oh, c'est vrai. Non, mais tu sais, des fois, tu t'as envie de dire, j'aimerais ça voir la face du gars qui m'a piqué quelque chose d'insignifiant.
Puis qui pige dans le bac de déguisement puis qui se fait donner une contravention de style pendant qu'il conduit son auto. C'est génial.
Hey, Jean-Héroldi, merci d'avoir appelé. On revient tout de suite après la pause avec vos commentaires. Alors, on va vous donner dans pas longtemps la liste des 10 voitures les plus volées cette année. Donc, prenez des notes. C'est sûr qu'il y a toujours une voiture très volée. C'est la Toyota 4Runner, tu disais,
Toyota
Antoine.
4Runner, mais c'est toujours au prorata du nombre de véhicules qu'on retrouve sur le marché. Parce que, je veux dire, c'est pas le véhicule qui est volé en plus grande quantité. C'est le pourcentage de véhicules par rapport au nombre qu'il y a sur la route.
On y reviendra, mais avant, je vous présente notre prochaine invitée. Elle est vice-présidente assurance chez CAA Québec, Suzanne Michaud. Bonjour, Mme Michaud.
Bonjour, Mme Marichal.
Je tenais absolument à voir quelqu'un qui soit spécialisé en assurance parce qu'en discutant autour cette semaine de ce sujet-là, je me suis rendu compte que beaucoup étaient un peu perdus quand on se fait voler un véhicule. Est-ce que c'est l'assurance habitation qui embarque? Est-ce que c'est l'assurance automobile dans tous les cas? Je pense qu'il y a des choses importantes qu'il faut savoir.
Effectivement, en fait, souvent, ce qui se passe, c'est que les gens se font voler le véhicule, mais ils peuvent aussi se faire voler du contenu qu'ils avaient laissé à l'intérieur du véhicule, comme les déguisements d'Halloween de votre invité tout à l'heure. Alors, ce qui se passe, c'est que pour l'assureur, ben, il y a supposons qu'ils ont défoncé la fenêtre pour rentrer. Bon, ben, il y a un bris au niveau du véhicule, donc c'est l'assurance automobile qui embarque. Mais si les voleurs ont volé le contenu à l'intérieur, et c'était du contenu qui n'était pas associé à l'auto, c'est-à-dire c'était pas la radio de l'auto, par exemple.
Ouais.
C'était des vêtements, un ordinateur, à ce moment-là, c'est l'assurance habitation qui va défrayer finalement la perte là, subie. Puis souvent, ce qu'on dit aux gens, c'est puis bon, les gens vont comprendre pourquoi c'est intéressant d'avoir son assurance auto et habitation au même endroit chez le même assureur. C'est que si vous êtes chez deux assureurs différents, vous avez votre assurance auto chez un puis votre assurance habitation chez l'autre, ben vous allez devoir payer deux franchises. C'est-à-dire, si vous aviez une franchise, par exemple, de 250 en assurance auto, ben vous payez votre franchise de 250 chez un assureur puis votre franchise, mettons, de 300 $ en assurance habitation chez l'autre assureur.
Mm-hmm.
Il y a beaucoup d'assureurs que quand les deux produits, l'assurance auto et habitation, sont chez eux, ce qu'ils vont vous faire payer quand c'est un seul et même sinistre, comme ce que je viens de vous parler, ils vont faire payer seulement une franchise, la franchise la plus élevée.
Mais ça, c'est important de savoir ça, là, parce que là, il y a des économies à la clé directement.
Je pense,
ces dernières années, on en parlait, il y a eu une hausse des vols de véhicules. C'est vraiment une plaie, là, en particulier dans la grande région de Montréal. On détient pas mal... on est dans le top, là, dans le top 5, pour pas dire le top 3, pour pas dire la place où on se fait
les
le plus
voler. Les gens
pensent
que les véhicules sont plus difficiles que jamais à voler. C'est vrai pour... Monsieur tout le monde qui veut, des jeunes qui veulent voler une voiture pour un joyride et la laisser plus loin, mais pour les réseaux qui sont organisés, c'est tellement plus facile,
exactement,
tellement plus simple.
Donc, du coup, sur les assurances, ça a un impact. Il y a une hausse pour ce qui est des réclamations assurance auto-habitation. Est-ce que c'est plus difficile, vous diriez, Mme Michaud, pour les gens de se faire rembourser?
Bien, en fait, souvent, c'est sûr qu'un vol, par ce qu'on appelle un vol entier, là, le vol au complet du véhicule, ça se peut qu'on pose un petit peu plus que de questions, par exemple, que si, par exemple, je sais pas, c'est une voiture qui est retrouvée incendiée, parce que là, on a la preuve, tout ça.
Ouais.
Quand c'est un volantier, ben, on va peut-être prendre un peu de temps pour chercher où est le véhicule, tout ça, on va poser quelques questions. Mais bon, est-ce que c'est plus difficile? Ben, écoutez, on est conscient, comme tous les consommateurs, qu'effectivement, il y a du vol auto, puis qu'il y a des régions qui sont plus à risque.
Ouais.
Donc, mais peut-être juste s'attendre. Comme je vous dis, quand la voiture est encore là, que la voiture a été défoncée, puis que il y a du matériel qui manque à l'intérieur, ben on a toujours la voiture, on voit bien qu'elle a été défoncée. C'est quand c'est un vol complet du véhicule, ben là, ça peut prendre peut-être un petit peu plus de temps.
Oui, c'est sûr. Puis bon, est-ce qu'il y a de la fraude? Est-ce qu'il y a des gens qui déclarent plus d'affaires? Tu sais, tu te fais voler à l'intérieur. Je pense qu'il peut y avoir beaucoup de gens qui peuvent être tentés d'augmenter.
J'avais 17 sacoches Louis Vuitton.
C'est ça, genre. Hop, j'avais mon bracelet. J'avais ma bague en diamant. Je venais de l'enlever. Je l'avais laissé là. Est-ce que vous voyez ce genre d'affaires-là de Mme Michaud dans les réclamations des gens? Est-ce qu'on voit ça? Est-ce qu'il y a comme un abus, un espèce... Je pense qu'il y a bien des gens, on va se le dire, qui vont dire, regarde, on va m'arranger pour qu'ils me remboursent mon déductible. Hein?
Ben, je vous cacherai pas que chaque année, le Bureau d'assurance du Canada publie des données où est-ce qu'on estime qu'effectivement, la fraude, puis là, les derniers chiffres que j'ai en tête, tout dépendant des années, là, ça pouvait se promener entre 5, 10 jusqu'à 15 là, représentait ce pourcentage-là des primes que les gens payaient parce que, faut pas se le cacher, toujours l'assurance auto-habitation, c'est un pot de commun où tout le monde met de l'argent ensemble en disant ça va servir si un jour il y en a un qui a un malheur, qui est pas chanceux. Mais à ce moment-là, quand on voit une augmentation, par exemple, des réclamations pour le vol auto frauduleux, ben c'est clair que ça a des répercussions sur les primes d'assurance de tout le monde.
Mmh. Mais est-ce qu'il y a des façons de savoir si quelqu'un fraude en faisant sa réclamation? Est-ce que vous avez développé des...
C'est sûr que les gens, c'est des experts en sinistre spécialisés qui s'occupent de ce genre de sinistre-là. Puis oui, effectivement, ils ont des techniques là, pour essayer de voir, bon, est-ce qu'effectivement c'est un vrai vol comme mmh. ça arrive malheureusement, mais où est-ce que c'est de la fraude? Effectivement.
Ouais, c'est ça.
Il y a des façons d'arriver à peut-être des fois des regroupements qu'on fait puis de dire oups, je pense que là on a peut-être un petit cas de fraude.
Ouais, exactement. Quand il y a un sinistre comme ça, on s'attend forcément à ce que notre prime augmente, c'est pour ça que double frustration quand tu vois que quelqu'un t'a volé. À l'intérieur de ton véhicule, tu dis, bon, ça y est, ma prime, en plus d'être obligé de payer un déductible, ma prime va probablement augmenter l'année prochaine. La prime, il y a un impact direct sur la prime, Suzanne Michaud.
Oui, parce que souvent, en fait, quand vous avez jamais eu de réclamation, mettons, pour les 10 dernières années, vous avez souvent ce que l'assureur appelle un rabais de bon conducteur ou bon assuré, appelez-le comme vous voulez. Et le jour où vous avez un sinistre ou une réclamation, ben vous perdez ce rabais-là. Fait que déjà en partant, votre prime augmente. Puis souvent, l'assureur va dire, ben, je t'augmenterai pas beaucoup, beaucoup dans l'année qui suit, mais je vais t'augmenter peut-être pendant quelques années pour essayer de refléter le risque que tu représentes maintenant. Parce que souvent, les gens se font, par exemple, les gens déménagent, restent dans une ville, déménagent à une autre, mettons, on prend Montréal, parce que c'est la ville championne des... Donc, probablement qu'on avait votre vécu, entre guillemets, comme assuré quand vous restez, mettons, dans la ville de Québec, là. Et là, vous déménagez à Montréal, et là, vous avez un sinistre, et là, on dit, oups, ce monsieur-là, là, il y a une augmentation du risque. Il a déménagé à Montréal. Déjà, on avait probablement dû augmenter sa prime.
Ah, il y a une prime Montréal, Jean?
Ah, ben, les primes varient par code postal.
C'est ça, hein? Ouais, ouais.
Mais en plus, on se dit, oups, il y a peut-être, là, dans son environnement, il y a peut-être des nouveaux facteurs. Fait que oui, on augmente. Ouais. Cette personne-là représente un plus gros risque pour l'assureur que dans le temps qu'il était ailleurs et qu'il n'y avait jamais eu de réclamation.
Et Suzanne Michaud, avant d'aller à la pause, je voulais vous demander, il y a de plus en plus de travailleurs autonomes. Moi, j'ai une maquilleuse professionnelle qui s'est fait voler tout son maquillage dans sa voiture cette semaine, qui était très inquiète de ça, qui dit « J'aimerais ça voir la face du gars qui pensait tomber sur une belle valise pleine de bijoux ou d'argent, je ne sais pas à quoi il pense, puis qui va trouver du vieux maquillage usagé. » Mais toujours est-il qu'elle est maquilleuse professionnelle, donc sa grande question, c'est de savoir, est-ce que, comme c'est mon travail, est-ce que mon assurance habitation va rentrer ou est-ce qu'ils vont... Parce qu'elle n'avait pas d'assurance professionnelle. Comment ça marche pour tous les travailleurs autonomes qui nous écoutent? Des fois, c'est un ordinateur qui sert pour le travail. Ça peut être plus compliqué dans ces cas-là, non?
Ben, en fait, normalement, à la base, les gens qui sont travailleurs autonomes, dans leur assurance habitation, on conseille toujours d'ajouter un avenant qui est fait spécifiquement, ouais, justement pour les travailleurs autonomes, qui protège les outils de travail, là, que ce soit du maquillage ou que ce soit, par exemple, un ordinateur qu'on sert dans le cadre de son travail.
Mais quand on l'a pas, est-ce que ça peut être un problème?
Ça peut, effectivement, je veux pas me mettre dans la peau de son assureur puis je vais laisser les régler, ouais, le tennis, mais effectivement, ça... Peut-être que ça va être un petit peu plus complexe que si elle avait à la base l'avenant.
Donc, un avenant. Et dans un cas comme ça, c'est quoi le coût moyen d'un avenant professionnel pour une couverture professionnelle d'outils de travail, par exemple? Ça coûte combien?
Oui. Je ne peux pas vous donner un prix comme ça parce que, en fait, ça dépend toujours
de ce qu'on assure. Ça dépend de ce qu'on assure.
Quelqu'un qui a juste, par exemple, un ordinateur et dit moi, je suis travailleur autonome, puis tout ce que j'ai à assurer, c'est mon ordinateur, ou moi, je suis coiffeuse à la maison, puis tout ce que j'ai à assurer, c'est 3-4 paires de ciseaux puis un séchoir. Ouais. Ça ne sera pas la même chose que, par exemple, quelqu'un qui est travailleur autonome qui a 20 000 $ par exemple, d'outils de construction, là, parce qu'il fait des
ménages. Exact, les gars là, qui ont des pick-up puis les outils, là, ça, c'est quelque chose. Ouais.
On va assurer spécifiquement ces outils-là.
Voilà. Suzanne Michaud, merci pour tous ces précieux conseils. On peut aller sur le site de CAA Québec également. Là, si vous avez des questions, leur site est pas mal complet. Suzanne est vice-présidente assurance chez CAA Québec. On s'arrête ici. On vient tout de suite avec vos commentaires, tout de suite après. On a Martin avec nous. Bonjour Martin, racontez-nous donc votre anecdote de vol de voiture.
Bonjour.
Bonjour à vous.
Moi, j'habite près du quartier 1030.
Ouais. Un bon spot, ça.
Oui, très bon. Environ voilà un mois, je me suis fait voler mon beau Tacoma TRD Pro.
Bien sûr. Oui. Puis ça, vous pouvez être certain qu'il n'est plus en Amérique du Nord.
Ah là là.
À ce point-là.
Ah, ben il est parti au Moyen-Orient, lui.
Les véhicules Toyota et Lexus, parce que ce sont des véhicules non seulement robustes, mais très faciles à réparer partout, mm-hmm, à travers le monde. Ce sont des véhicules très ciblés par les voleurs parce que au Moyen-Orient, en Afrique, on est capable de rouler ça comme on roule n'importe quoi ici. Si vous envoyez un produit GM ou un véhicule allemand là-bas, ils sont pas capables de se réparer. Ça prend d'outillage spécial, etc. Des Toyota, c'est indestructible d'une part, et d'autre part, ça se répare facilement. Donc, c'est extrêmement populaire, les 4x4 Toyota, partout à travers le monde. Fait que ça, là, au port de Montréal, là, dites-vous que quand vous vous promenez en bateau l'été là, sur le fleuve, puis vous regardez le port, là, les containers qui sont là, il y a plein de véhicules volés là-dedans, c'est bourré.
Mais la police, c'est ça, là, ce que vous me dites, là.
La police, c'est ça. Mais la police, moi, il y a un enquêteur au vol d'automobile il y a quelques années qui m'avait dit qu'on vérifie à peu près 3 % des conteneurs au port de Montréal.
Parce qu'ils n'ont pas le temps de gérer ça.
Ils sont en train, ils nous parlent depuis des années d'avoir un système qui va travailler avec des rayons X, là, qui vont pouvoir voir ce qu'il y a dans les conteneurs, sauf que c'est souvent des propriétés privées. Tu n'as pas le droit d'aller fouiller là-dedans, à moins que toi, tu décides avec un mandat d'y aller. Mais le problème est là, il n'y a à peu près pas de vérification. Fait que ça s'en va là, ça rentre dans le conteneur. Merci, bonsoir, ça embarque dans le bateau, c'est parti.
Martin, vous vouliez rajouter?
Oui, le pire, c'est que j'ai été au courant qu'ils sont capables de scanner les clés, mais le pire, c'est que j'habite au deuxième étage.
Ah, OK. Fait que vous êtes dans le deuxième étage d'un appartement ou d'un condo, puis...
Condo, exactement. Puis le matin, on s'est réveillé, puis le camion était parti.
Ah, mais ça, ils ont pas besoin non plus de scanner le code. Ils ont d'autres façons pour rentrer à bord de votre véhicule.
Un ordinateur, ça fait très bien le travail.
Il y a une pub de Sherlock sur nos ondes qui roule en ce moment.
Ah oui, mais c'est vrai.
C'est comme un gars qui, un voleur de char qui parle, qui dit hey, gars.
Moi, j'avais été voir.
Ouais, mais Sherlock au Maroc, ça veut rien dire.
Mais non, c'est ça. Non, c'est ça. Ouais.
Mais j'avais été voir quelqu'un, moi, qui fait ça légalement pour les compagnies, puis il m'avait montré que son ordinateur, ça prend 30 secondes.
Ouais.
C'est quand tu as la méthode et le software, excusez le mauvais terme, le software, mais les éléments électroniques pour le faire, là, c'est une affaire.
Le logiciel.
Moi, je vais vous donner un exemple.
Merci,
Martin.
Je vais vous
donner un autre exemple. Antoine. J'ai un ami qui faisait du repossess pour une compagnie de crédit automobile.
C'est quoi ça?
Donc, autrement dit, quelqu'un qui, un mauvais payeur qui ne payait pas son véhicule, lui était responsable d'aller saisir les véhicules.
Du recouvrement.
Du recouvrement.
Ça, c'est le genre de job que tu veux pas. Là,
bon, c'est ça. Et lui, je me souviens d'une époque où il se promenait avec un trousseau d'à peu près 40 clés. Il fallait qu'ils essayent toute la gang pour réussir à débarrer un véhicule. Aujourd'hui, c'est plus ça. Là. Aujourd'hui, il arrive avec un ordinateur, avec un code, c'est programmé d'avance, tu pars avec ça, merci.
Alors,
c'est beaucoup plus simple qu'avant. Là.
C'est sûr.
C'est beaucoup plus simple.
Est-ce que les Range Rover se font voler? Est-ce que c'est un véhicule? Il y a quelqu'un qui me demande, Emmanuel me dit, est-ce que mon Range Rover est à risque de se faire voler? Est-ce que c'est dans
les
le top 10?
Les gros plus que les petits. Mais le top 10, là, on peut le nommer. Je vais vous donner un exemple. Le véhicule le plus volé, 4Runner. Après ça, Tundra 2015. 4Runner 2015. On parle après ça d'un cabriolet BMW 2009. Mais ces listes-là...
Oh, il y a même des années en particulier.
Oh, il y a des années.
Pourquoi des années en particulier? Le sixième
véhicule le plus volé, c'est un F250 Ford 2003. Mais
pourquoi?
Ça n'a pas de bon sens. Parce que, autrement dit, ce qu'on prend comme liste ici, c'est...
C'est au prorata
du nombre de véhicules. Fait que s'il reste 24 véhicules Ford F250 2003 sur la route aujourd'hui, mais qu'il s'en est volé 10 pour 2.
Ah, d'accord, je comprends.
Ben, c'est un pourcentage.
Ah, bon, j'ai bien mal fait.
Fait que c'est mal fait. Mais les véhicules les plus volés, là, c'est pas compliqué. Là.
C'est quoi?
Pensez à des Toyota RAV4, des Dodge Caravan, ce qui se vend. Parce que, au-delà du fait qu'il y a des véhicules qui sont volés pour être envoyés outre-mer...
L'autre, c'est pour les pièces.
Ben oui. Ou pour faire ce qu'on appelle dans le jargon des boîtes. Des boîtes, c'est qu'on va voler un véhicule. Vous avez accidenté votre véhicule.
Mm-hmm.
Le véhicule est à peu près perte totale, il est fini, vous n'aviez pas d'assurance. Il y a des gens qui vont se spécialiser pour voler un véhicule identique au vôtre. On va interchanger les numéros de série. On va mettre ces numéros de série-là sur le véhicule qu'on a volé. Puis pour 1500, 2000$, vous avez votre véhicule réparé. Merci, bonsoir.
C'est
de plus en plus complexe à faire parce que, justement, des numéros de série qui sont greffés un peu partout sur des véhicules parce qu'il y a des puces électroniques, etc.
Voilà.
Mais ça existe encore.
Ça existe et c'est
mais ça veut dire qu'il y a une clientèle pour ça. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui dit, veux-tu me réparer, voler mon... C'est ça, là, les gens...
Non, c'est sûr. Non, mais on pose jamais de questions d'où viennent les pièces. Alors, les modèles populaires, que ce soit une Civic, un RAV4, un HRV, un CRV, c'est parce qu'il y en a une quantité industrielle sur la route. Alors, on va voler ces véhicules-là pour avoir une fourniture en pièces, pour pouvoir reconstruire des véhicules accidentés.
C'est ce qu'on appelle les Midnight Auto Parts.
Oui, absolument.
C'est quoi?
Hein? Midnight Auto Parts, c'est que tu dis, bon, ben moi, j'ai accidenté mon Grand Cherokee hier. Il dit, reviens demain midi, je vais avoir tes pièces. Ils vont en voler un dans la nuit, puis le lendemain, il y a des pièces.
Je connais même une jeune fille, ça fait plusieurs années de ça, qui s'était fait voler sa Honda Civic coupée. Elle avait retrouvé sa voiture, plus de mag, plus d'intérieur, plus de siège. On avait déshabillé l'auto au complet. Fait une réclamation d'assurance auprès de son assureur. Fait réinstaller le stock sur son véhicule. Et devinez quoi? Ce sont ses sièges qui étaient réinstallés dans son auto.
Comment elle savait ça?
Parce qu'il y avait une brûlure de cigarette sur un siège passager qu'elle avait reconnu spécifiquement.
Ben voilà.
Fait qu'elle, elle a su que c'était exactement ses sièges qu'elle s'était fait voler, qu'on lui avait remis dans son auto. Fait que c'est des cas comme ça, j'imagine que c'est moins fréquent aujourd'hui,
mais
ça existe encore.
Ça existe encore. Et moi, j'avais assisté chez Le Cavalier Auto à l'époque, qui est un récupérateur avec les compagnies d'assurance. Et devant moi, il avait démonté un auto en 30 minutes. Mais démonté, là. Méconnaissable en petits bouts.
Ch'tic, poum, poum.
Il y avait des ciseaux. Où il coupait carrément en deux. Il gardait la partie avant. Il avait enlevé l'intérieur. Au bout d'une demi-heure, là, t'avais aucun moyen de dire c'était
un
Honda Civic, mais c'était qui?
Juste pour les pièces.
Toutes les pièces, absolument.
C'est spectaculaire d'assister à ça. Moi, j'avais fait un reportage il y a quelques années chez LKQ, qui, ironiquement, est le nouveau Le Cavalier. Et on m'avait démonté, justement, une Honda Civic, je pense que c'était un 2012, devant moi. 45 minutes, la voiture était grosse comme un bac à recyclage. Puis c'était fini, puis on avait récupéré tout ce qui était bon. Les phares, la partie avant, etc.
Les pare-chocs,
c'est très rapide. Fait que les gens qui sont spécialisés là-dedans,
et c'est une industrie florissante, ça?
Bien sûr.
Ça marche,
les gens qui sont spécialisés là-dedans ou les recycleurs, entre parenthèses, qui acceptent de jouer du mauvais côté de la clôture, ben eux, ils ont tout ce qu'il faut pour faire... D'ailleurs, il y en a combien des cours à scrap, comme on dit en bon français, qui ont été fermés avec les années parce qu'on s'est rendu compte que...
Provenance des pièces était douteuse.
C'est ça, exactement.
Pour être poli. Alors, il y a des gens qui font bien leur travail, mais dites-vous que si... vous n'avez pas retrouvé votre véhicule après 2 heures, il risque d'être en petits morceaux dans des boîtes puis déjà parti chez des recycleurs.
Incroyable. Ouais. Alors, on a Diane avec nous. Bonjour, Diane.
Oui, bonjour à vous. Juste pour vous dire que en 10 minutes, ils sont venus chercher ma voiture que j'avais achetée le vendredi, le lundi matin. Et puis, c'est celui qui me l'a vendue. Je suis sûre à 100% que c'est lui qui est revenu la chercher parce que c'est une clé à puce. Puis, j'avais eu le malheur d'appeler, tu sais, ceux qui checkent là, s'il y a des dettes sur la voiture avant que tu l'achètes.
Oui, oui. Un petit mandat. Le RDPRM.
C'est ça, RDPRM. Et puis là, j'avais demandé... Elle m'a dit, le numéro de série, c'est quoi? Là, elle dit, il est pas bon, ce numéro de série-là. J'ai rappelé le vendeur. Ah, oh, excuse-moi, je me suis trompée. Je vais te rappeler tantôt pour donner le bon numéro.
Voiture usagée, là, vous êtes passé par...
Oui, mais quand même à 15 000 $ là, c'est ouais. Mitsubishi. Puis, Spider, 15 000 $ quand même, la voiture. Mm. Et puis, je te dis, ça n'a pas pris 10 minutes. À 3 heures, j'ai stationné. Puis, à 3 heures et quart, j'ai dit à une fille, viens voir ma nouvelle voiture comme elle est belle. Puis, elle n'était plus là.
Ah, oh boy.
Probablement.
Alors, du monde crache, hein?
Mais oui, ah, il y en a beaucoup,
j'ai
je trouve.
J'ai dit à la police, en plus. J'ai dit à la police. Je suis sûre et certain que c'est lui parce que probablement c'était déjà une voiture volée. Elle était trop belle pour ce prix-là. Elle était trop belle.
Puis malheureusement, on se rend compte, vous parlez de clé à code. Il y a quelques années, nous, dans le métier, on s'est rendu compte qu'il y avait un employé d'une concession qui était de connivence avec un groupe organisé de vol d'auto. Lui était rentré avec une voiture à l'époque qui, pour un bon personnage connu, on le nommera pas, puis il avait spécifiquement été mené la voiture lui-même, puis il était un peu tôt, il dit « Bon, je vais aller dîner, mais que je revienne, je le rencontrerai, il revient, il n'y a plus d'auto, puis il a la clé dans les poches. » Fait qu'il dit, il a repassé les vidéos parce que le stationnement avait des caméras de surveillance. Ouais. Il a repassé les vidéos, puis il a vu quelqu'un arriver à un moment donné avec une casquette. Tic, tic, tic. Il avait la clé.
Ouais.
Il dit, c'est moi qui l'ai, la clé. Il y avait une clé. Puis ils ont fait enquête parce que c'est un véhicule cher. Puis ils se sont rendus compte que c'est un employé qui faisait faire des doubles pour les
ça arrive avec les cartes de crédit. Logiquement, ça peut arriver avec les autos. Merci, Diane. J'ai Roberto qui dit, est-ce que les blocs volants, vous savez, les espèces de barres, est-ce que ça peut aider à éviter les vols? Est-ce que c'est
ça, vous n'avez pas idée à quel point c'est efficace.
Ça, c'est efficace.
Les barres,
hein?
Le volant ne tourne pas.
Ben non, c'est ça.
Puis aujourd'hui, je vous dis ça comme ça.
Fatigué à en mettre à chaque fois.
Non, mais c'est parce qu'à une certaine époque, ce que les voleurs faisaient, t'allais voler, je nomme une voiture bien basique, t'allais voler une Chevrolet Cavalier dans les années 90. C'était simple comme bonjour, pas de coussin gonflable. Ça prenait une noix, ça prenait 5 secondes. T'avais démonté le volant, tu l'installais un autre, tu partais avec. Mais aujourd'hui, défaire un volant dans une voiture, c'est drôlement plus complexe. Oui. Alors, une barre comme ça en métal, quand tu peux pas tourner le volant d'une voiture, il faut que tu sois... Mais ironiquement, on dirait que c'est moins populaire qu'avant. Et pourtant, c'est un dissuadeur.
Ah bon, c'est bon à savoir.
Ouais, oui, ça coûte pas cher.
Mais c'est fatigant à mettre à chaque fois, non?
Oui, oui.
Oui, mais si vous tenez à votre voiture, c'est un bon moyen.
C'est sûr. Écoutez ça, j'ai quelqu'un qui m'écrit, à l'époque que j'en ai, mais elle dit, je travaillais dans un concessionnaire au body, là, au shop, aux pièces.
Aux pièces ou au service.
Aux pièces, et puis écoutez, bon. Elle dit, on a fait venir une pièce pour un véhicule parce que la pièce avait été volée dans le fameux véhicule. Le véhicule était buriné, et la pièce qu'on a commandée, qu'on a reçue, c'était la pièce burinée et volée.
De ce véhicule-là.
C'est le bout de tout. Ça se peut pas.
Ça prend quelqu'un qui a du culot pour voler une pièce burinée parce qu'on peut retracer
y a aussi
la pièce.
Le fléau.
Écoute, les chances que tu te fais voler une pièce, est burinée ta pièce.
Puis on te renvoie la main.
On te renvoie la pièce. Écoute, mais ça veut dire qu'il y a un gros scam. Là.
Ben, c'est comme actuellement.
Faut vraiment aller à la pause.
OK,
on y va.
À la pause. Go.
Bonjour Martin. Vous, c'est une histoire aussi incroyable. Racontez-nous ça.
Oui, bonjour. Moi, c'est une petite anecdote qui s'est passée à Vancouver en 2007.
Ah, c'était Vancouver, OK.
Oui. Un soir, un vendredi soir, je suis sorti prendre quelques bières. Puis quand je suis revenu dans la nuit de vendredi à samedi, je stationne mon auto devant la résidence où j'habitais. Et puis, vers 6 heures du matin, ça cogne à la porte. C'est le propriétaire qui vient me dire, « Hey, Martin, il dit, faudrait que tu ailles restationner ton auto comme il faut et mal stationné. » Je le regarde, je comprends pas. Je l'ai stationné devant la porte comme à tous les jours.
Mais après quelques bières, c'est sûr que des fois...
Oui, bien, effectivement, je l'avais bien stationné.
Prenez 22 bien, mon minou. Attends, on va prendre mon char, on va aller me parker. Oups, un petit peu du crush.
Bonjour à tous les Français qui nous écoutent, qui essaient de comprendre ce qu'Isabelle dit.
Oui, c'est ça.
Fait que, pour faire une histoire courte, je sors dehors à l'extérieur, là, je m'aperçois que ma voiture n'est pas en avant de la maison, est en bas de la côte, environ à 100 mètres plus loin. C'est que là, j'avais un antidémarreur sur cette voiture-là, un Chrysler Intrépide. Les voleurs, ils ont réussi à partir de la véhicule, mais après 100 mètres, la voiture, elle arrête automatiquement. Ils ont donné un coup de volant. Le volant s'est barré. Ça s'est ramassé dans le terrain d'un voisin plus bas.
Non, c'est vrai. Ah, donc,
fait
c'est
que c'était une tentative de vol, finalement.
Tentative de vol ratée, c'est ça.
Ratée, mais avec beaucoup de dommages, parce qu'ils ont tous coupé les fils qui étaient en dessous du volant. Puis là, ça a été le problème des assurances. Comme que j'étais assuré au Québec, puis j'étais à Vancouver, il a fallu qu'on se débatte avec les lois pour pouvoir m'indemniser. Mais finalement, tout a été réglé dans l'ordre, mais... Ça a pris quand même un certain délai.
Ah non, c'est sûr. Merci, merci Martin. Puis vous savez qu'après quelques bières, on appelle Nez Rouge. D'ailleurs, ça vient d'être lancé. Yves, bonjour. Yves, je pense que vous avez travaillé dans le domaine de l'assurance, Yves. Puis vous aviez, tout à l'heure, on parlait de ça, là, des choses que parfois les compagnies d'assurance savent repérer chez certains qui peuvent être tentés d'augmenter leur liste
chez
d'objets.
Les fraudeurs.
Liste d'objets volés, Yves.
Oui, exactement. Vous en avez parlé, puis je trouvais ça intéressant. Bonjour à tout le monde. Félicitations pour le beau programme. On est heureux de vous écouter. Essentiellement, je commençais par un warning. Je vais faire ça rapidement, mais les gens ne se doutent pas qu'en réclamant, justement, ce que vous disiez tantôt, Isabelle, la bague, les 18 sacoches Louis Vuitton de Benoît et tout, que les assureurs ont plusieurs techniques que je vous rappellerai rapidement. Mais la journée où c'est prouvé que vous avez fraudé, il y a deux conséquences. Premièrement, vous avez réclamé des dommages sur l'auto et des dommages résidentiels. L'assureur est en droit d'annuler les deux polices. Donc, en partant demain matin, votre police est nulle et non avenue, plus la perte originale. Sachez que tous les assureurs ont un beau fichier central qui existe maintenant. Alors, la journée où on vous annule pour fraude, bonne chance pour vous réassurer parce que on va regarder votre fichier, c'est marqué police nulle et non avenue pour fraude. Les assureurs vous donnent plus de vous. Avant de réclamer votre sacoche de plus, moi, je vous suggère d'y penser beaucoup parce que ça va créer des conséquences, même criminelles, parce que si l'assureur décide de se plaindre, de porter plainte à la police pour une réclamation qui pourrait excéder, par exemple, 5 000 $, vous êtes dans le trouble personnel, vous êtes dans le trouble criminel. Fait que ça, c'est mon warning.
Mais ça, c'est très bien de rappeler ça, surtout que Suzanne Michaud du SAAT, tout à l'heure, nous le disait, que tout le monde se trouve à payer pour ça, finalement.
Ben, oui, c'est sûr.
Oui, on paye tous pour les fraudes des autres. Puis je vous dis rapidement une réclamation qui est arrivée, qui est une anecdote qui va vous faire sourire. Donc, moi, vingtaine d'années, je travaille en assurance, et à un moment donné, un dentiste qui réclame pour une bague diamant de 3 800 $ qu'il a laissé par hasard dans sa voiture. Les enquêteurs, donc, ont cette technique-là pour vérifier. Donc, nous avons une photo. Effectivement, la bague est là, on l'a fait évaluer par un bijoutier, puis il y avait aussi une estimation. Donc, on lui rembourse l'argent pour la bague. Notre enquêteur régulier allait se faire un nettoyage dentaire chez notre ami le dentiste qui portait la dite bague avant qu'elle soit remplacée. Donc, vous voyez la technique. Il y a même des visites de courtoisie que vous pouvez avoir après.
Okay.
Alors, je vous le dis là à tous ceux qui vous écoutent, restez dans ce que vous êtes.
Restez humble par rapport à ce que vous possédez.
L'honnêteté est toujours payante.
Merci Yves. On a Sylvain. Hey, Sylvain, c'est tout frais là. Ça vient d'arriver à Laval à part ça. Sylvain, bonjour.
Bonjour.
Racontez-nous rapidement.
À Laval, ça c'est rare.
Ouais.
Je me suis couché mardi soir. Mon véhicule était en avant de la maison à 22h. Puis quand je me suis levé pour aller travailler à 3h45, il n'était plus là.
Ben voyons. Donc,
quel
c'est
genre
un
de véhicule?
CRV?
CRV 2017. J'ai appris après que ça a l'air que c'est une voiture qui est en demande.
Oui, parce que c'est populaire. Alors, on a besoin de pièces.
Et c'est le genre de véhicule qu'on peut aussi envoyer outre-mer, les CRV.
Oui.
Moins que les gros
utilitaires, là, mais à une certaine mesure, oui.
Hey, mon Dieu, comment on prend ça, Sylvain?
Ben, écoutez, c'est choquant parce que c'est le trouble que ça donne.
C'est ça.
Sûr.
Tu te fais voler, tu es une victime, puis tu vas te payer plus cher d'assurance. Ça va te coûter quelque chose à quelque part quand même.
Votre franchise est de combien sur un vol comme ça?
La franchise pour les choses à l'intérieur, c'est 500 $, mais il n'y avait pas grand-chose à l'intérieur. C'est le véhicule. Moi, je
voulais... Mais votre franchise, justement, sur votre police d'automobile?
C'est une valeur à neuf.
OK, mais la franchise, c'est à 250 ou 500 que vous aviez pour l'auto?
C'est 250.
250, OK.
Moi, je vous souhaite qu'il ne vous arrive pas la même chose qui est arrivée à mon père il y a bien des années. Petit accident avec la voiture. Fait une réclamation, envoie la voiture chez le carrossier. On lui donne une voiture de courtoisie et il se fait voler la voiture de courtoisie.
Ça, je ris, mais c'est pas drôle.
Ce qui allait, puis, et à l'époque, c'était une Toyota Echo.
Oui.
Fait que c'est pas comme si non. c'était une voiture particulièrement. Ben, sauf que là, il y a deux réclamations ben non, en deux semaines.
Ouais.
Puis ironiquement, cette même voiture-là qu'il a fait réparer, près de 10 ans plus tard, il se l'est fait voler pour de vrai.
Faites attention aussi, barrez vos portes d'auto parce que les policiers...
Laissez rien dans la voiture.
Laissez rien dans la voiture, puis faites attention, les policiers mettent des contraventions à certains endroits pour ceux qui laissent les portes ouvertes.
Oui.
Merci Antoine.
Petite note Isabelle pour dire que c'est le salon de la voiture électrique en fin de semaine à Saint-Hyacinthe. Je m'y rends dès maintenant.
Merci beaucoup Benoît Charrette. Merci à l'équipe Isabelle, Normand, Jean-Christophe. On se retrouve lundi. Bye tout le monde.